Radio Okapi.
À la présentation, Pascal Masirika.
Okapi.
Les titres ce soir, le président de la Commission africaine pour la supervision des élections à temps de la CENI, des scrutins crédibles et transparents pour Simaro Ngongo, vous allez l'entendre, c'est pour regagner la confiance des milliers de Congolais. Affaire Thomas Lubanga, la CPI attend indemniser les 129 victimes dans 6 mois. La Chambre d'appel a rendu son arrêt sur les procédures applicables en cette matière. Et puis le consortium franco-américain chargé de juguler la fraude des appels entrant en RDC à travers les Simbox n'est pas à la hauteur de sa tâche. Constat fait à l'issue des concertations économiques tenues ici à Kinshasa. Et bienvenue à tous, on de la politique pour commencer ce journal. Le président de la Commission africaine pour la supervision des élections appelle la Commission électorale nationale indépendante, CENI, à exécuter son action en toute liberté en privilégiant les échanges avec les parties prenantes. Recommandation formulée ce mercredi lors d'un atelier tenu à Kinshasa. Cette plateforme de 70 organisations exhorte la CENI à ne pas céder à l'intimidation de certains politiciens. Simaro Ngongo revient ici sur les activités menées l'année dernière et les recommandations formulées en vue des élections transparentes au Congo-Kinshasa. Il est au micro de Mimi Ngumba Mulongo.
Il y a un groupe, comme vous le savez, de politiciens qui sont en train de menacer la CENI. C'est pour cela que la CAS encourage la CENI à aller jusque de l'avant, à respecter le calendrier électoral que l'a publié il y a quelques semaines. Nous avons dit que la CENI est disposée à recevoir aussi des recommandations des uns et des autres, les étudier si c'est faisable ou pas. C'est que nous ne voulons pas se imposer la CENI parce que le calendrier électoral partout ailleurs ne peut pas l'élaborer avec les acteurs politiques. Nous demandons que la CENI puisse nécessairement organiser des élections libres, crédibles et transparentes. Parce que si nous revenons à ce qui s'était passé en 2011, il y a manque de confiance par la population. Alors aujourd'hui, la CAS a fait l'effort de donner confiance à la CENI par rapport aux activités que nous avons organisées au travers la ville de Kinshasa. Je pense qu'aujourd'hui, même si vous parlez de la CENI, il y a des gens qui vous écoutent, alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas.
Notez que le vice-président de la CENI a appelé les membres de cette commission à poursuivre la vulgarisation du calendrier électoral. Pendant ces temps en Ituri, les milieux politiques saluent la promulgation de la loi qui détermine les modalités d'installation des nouvelles provinces de la RDC, écrit à la victoire d'une aspiration qui date des années 60. Ils promettent de sensibiliser la population locale à accepter les Congolais, quelle que soit leur origine, qui accéderont à des responsabilités dans la nouvelle province de l'Ituri. Pour en parler, retrouvons tout de suite à Bounia Jean-Paul Basila.
C'est en 1962 que l'Ituri a connu pour la première fois son expérience comme province à part entière épargnée de l'autorité de Kisangani. Cette expérience qui n'a pas fait long feu s'est rééditée dans la douleur en 1999 à l'aube des conflits armés et sous l'occupation de l'armée ougandaise. En 2010, 30 députés provinciaux originaires de l'Ituri, s'appuyant sur la constitution de 2006, ont par une déclaration unilatérale décrété la province de l'Ituri sans que leur action ne soit validée par les sommets de l'État à Kinshasa. Aujourd'hui, les députés Wilson Adiro du MSR, Abdallah Penemba Kaidoudonga Kavarios du PPRD ainsi que Sylvain Aguenorot, cadre d'élu PC de Thomas Lubanga, salue cette loi qui couronne une longue lutte politique soutenue par toute la classe politique ituriane depuis l'accession de la RDC à l'indépendance. Ils prônent l'unité de tous les habitants et ils soutiennent que tous les Congolais, toutes origines confondues, peuvent prétendre à des responsabilités politiques en Ituri, pourvu qu'ils émanent du choix des électeurs et servent réellement l'intérêt commun. Le PPRD Abdallah Penembaka particulièrement estime qu'il est temps qu'il y ait un neutre et regardant de la population sur l'exécutif de l'actuelle province orientale qui expédie les affaires courantes et qui n'a que 4 mois de survie selon cette loi. Bounia Jean-Paul Basila, Radio Okapi.
Et puis, après la promulgation de cette loi à Kinshasa, le Katanga sera subdivisé en 4 nouvelles provinces. Certains députés provinciaux s'y disent favorables. D'autres estiment, par contre, qu'il vaut mieux renforcer la décentralisation au lieu de démembrer les provinces de la RDC. Un avis que partage aussi un membre du clergé de cette province. Reportage à Lubumbashi de Denise Mayo.
Parmi les députés provinciaux, certains déclarent que si la décentralisation n'est pas effective, le découpage est un mot vain. C'est aussi l'avis de l'évêque de Kilwa Kasenga. Pour Mgr Fulgence Muteba, cette loi vient tuer l'identité katangaise.
Cette loi qui a été promulguée hier vient consacrer la mort de l'identité katangaise. Et ça, Je pense que les générations à venir nous condamneront. Pour nous, l'identité katangaise, c'est une manière de vivre, une solidarité qui va du nord au sud Katanga, malgré des problèmes internes. Mais il y a cette solidarité du peuple katangais à travers ces innombrables tribus, mais on ne peut plus en parler aujourd'hui.
Mais d'autres députés provinciaux sont favorables au démembrement des provinces. Il permettra de rapprocher les administrés des administrants. C'est le cas de l'honorable Clément Mufunji.
Je pense que les provinces étaient tellement très vastes et que les anciens gouverneurs avaient peut-être de penchants pour tel ou tel coin, mais je pense qu'en démembrant ces anciennes provinces, on aurait à gérer un coin qui est vraiment gérable, quoi.
Les quatre nouvelles provinces issues du Katanga sont le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, le Lualaba et le Tanganyika. Lubumbashi, Denise Mayor, Radio Okapi.
On passe maintenant à l'actualité judiciaire. Dans 6 mois, la Cour pénale internationale va entamer l'indemnisation des 129 victimes dans l'affaire qui oppose le procureur contre Thomas Lubanga, cet ancien milicien congolais. Ce mardi après-midi, la Chambre d'appel a rendu à La Haye son arrêt sur les procédures applicables en cette matière. Elle a modifié en même temps l'ordonnance de la Chambre de première instance et chargé le fonds au profit des victimes. C'est ce que nous explique Jeff Ngoy.
Au mois de septembre prochain, le fonds au profit des victimes, une structure permanente de la CPI, devra apprêter le projet de plan de mise en œuvre des réparations collectives. Ce projet devrait comprendre une estimation du montant nécessaire à la réparation du préjudice causé par les crimes dont Thomas Lubanga a été reconnu coupable. En première instance, Lubanga n'a pas été rendu personnellement responsable des réparations en raison de son état actuel d'indigence. Mais en appel, la Chambre estime que c'était une erreur. L'ancien seigneur de guerre en Ituri pourrait être amené à apporter sa quote-part aux réparations. Les animateurs du fonds s'accorderont avec les avocats des victimes pour proposer une somme censée couvrir l'ensemble du dédommagement financier pour les victimes. Il est envisagé d'apporter à ces dernières des services médicaux, notamment des soins psychiatriques et psychologiques, en plus d'une aide à la réhabilitation en général, au logement, à l'éducation et à la formation. C'est en 2012 que Thomas Lubanga a été condamné à 14 ans de prison pour crimes de guerre commis en 2000.
Jeff Ngoy sur Radio Okapi. Revenons un instant à Kinshasa où le gouverneur de la ville reconnaît le retour des bandits. Annonce faite mardi lors de l'inauguration du centre de contrôle et de surveillance de la circulation routière. André Kimbutayango parle d'un cas survenu il y a 72 heures dans la commune de Makala. On l'écoute dans ses propos recueillis par Emmanuel Imanda Lokengalo Chichimbi.
Les contrats signés par les gouvernements congolais et ses consortiums franco-américains datent de...
Je disais donc que le gouverneur a annoncé le retour des bandits dans la ville de Kinshasa. Ces propos sont recueillis par Emmanuel Imbana.
J'en profite un peu pour signaler la reprise du phénomène Kolona. Et félicitations, puisqu'avant-hier, je crois, la police a dû intervenir à Makala pour laisser passer un cercueil que le Kolona avait confisqué. Donc, le travail est là. Et demain, nous vous félicitons. Continuez à vous battre, ce n'est pas quelqu'un d'autre, un étranger qui viendra travailler à notre place. Tout ce que nous avons en commun, c'est ce pays, c'est cette ville. N'attendons pas des étrangers, ce sont des partenaires bien sûr, mais il ne faut pas les attendre pour qu'ils viennent travailler à notre place. Les gens ont tendance à dire, non, là vous devez démissionner, c'est une grande interpellation.
Un mot sur les télécommunications pour finir ce journal. Agelis Telecom ne détecte que moins de 2% du trafic frauduleux. C'est ce qui ressort en tout cas des concertations économiques achevées lundi à Kinshasa. Les participants à la rencontre affirment que le consortium franco-américain chargé de juguler la fraude des appels entrant à RDC à travers les SIMBOX n'est pas à la hauteur de sa tâche. Ils révèlent que cette firme est inutilement budgétivore, ce qui alourdit du coup le coût de la terminaison téléphonique. On fait le point avec Innocent Olenga.
Les contrats signés par les gouvernements congolais et ses consortiums franco-américains datent de novembre 2012. Les gouvernements les chargent de mettre fin au piratage téléphonique, fraude faisant perdre mensuellement, selon l'ex-ministre des Pétentiques, Trifon Kinkiemoulumba, près de 12 millions de dollars américains au trésor public. En contrepartie, Agelis Telecom a droit à 3 centimes sur chaque minute entrante en RDC, soit 0,03 dollars américains. Mais seulement, depuis qu'elle a commencé, Agelis Telecom n'a démantelé que 4 réseaux SIMBOX. À ma campagne, AGB Bébé au niveau des Batetela et derrière l'hôtel de ville de Kinshasa. Maigre moisson récoltée d'après certains opérateurs de télécommunications contactés par Radio Kapi, du fait que selon eux, la ville de Kinshasa régorge une centaine de ses réseaux mafieux. Ces opérateurs téléphoniques affirment que deux raisons sont à la base de l'inefficacité d'Agelis Telecom. Primo, ses équipements détecteraient ses appels entrant en retard et secundo, les pesanteurs officielles auxquelles Agelis Telecom, tout comme les sociétés de télécommunications, font face. Elles savent où se trouvent les SIM box, mais sont incapables de les démanteler. Tout simplement parce que selon nos sources, la majorité de ces SIM box sont entretenues par certains officiels congolais qui se brassent ainsi frauduleusement des millions de dollars au détriment du trésor public.
Innocent Olenga sur Radio Kapi, il est 18h10 à Kinshasa. C'est la fin de votre journal. Merci d'avoir écouté.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.